L'éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. La diplomatie ottomane en Europe du 15e au 18e siècle, conception, organe et procédure, tel est le titre du cours dont nous entendons ce matin la dernière partie. Nous avons appris dans ce cours à quel point les relations entre l'Empire ottoman et l'Europe étaient nombreuses, comment ces relations ont évolué au cours de l'histoire, mais nous avons aussi fait connaissance avec des ambassadeurs turcs qui suscitèrent longtemps tant de curiosité. Ce n'est, expliquait Gilles Weinstein, qu'au milieu du XVIIe siècle que les Ottomans enverront dans les cours d'Europe de hauts dignitaires comme le faisaient les Occidentaux. Mais dans ses derniers cours, Gilles Weinstein nous a surtout parlé d'un ambassadeur, Mehmed Efendi, qui fut au début du XVIIIe siècle, dans les années 1720, envoyé par les Turcs à Paris. Gilles Weinstein nous livre les nombreuses sources qui permettent de prendre un contact vivant avec cet ambassadeur qui plaisait tant à la société parisienne et qui a écrit un compte-rendu de voyage publié en traduction française sous le titre « Le paradis des infidèles, un ambassadeur ottoman en France sous la Régence ». C'est de ce compte-rendu qu'il a été question dans le cours que nous avons écouté hier matin. Mehmed Efendi parlait volontiers des merveilles qu'il avait vues en France et dont il fut le témoin privilégié, mais il critique si violemment certains faits et certaines personnes que l'ambassadeur de France en poste à Istanbul, le marquis de Bonnac, avait décidé d'en censurer des passages. Où il est question ce matin des récriminations de l'ambassadeur du sultan. Écoutez.
Dès le début, lorsqu'il arrive à Toulon, un premier incident à propos de l'arrivée du personnage qui doit lui servir d'accompagnateur pendant tout son voyage jusqu'à Paris et qui est appelé, selon les sources, le sieur de la Baume ou le sieur de la Beaune. On m'avait dit à Toulon, écrit-il, que le gentilhomme qu'on m'avait destiné était arrivé de Paris avec tous les préparatifs nécessaires pour mon voyage et qu'il m'attendait à Montpellier. Mais c'était un pur mensonge, car il ne vint qu'une semaine après. On ne me trompa de la sorte que pour me détourner, dit-il, de prendre la route de terre. Et de fait, comme vous vous souvenez, il va emprunter le canal du Languedoc. Le marquis de Bonnac, qui s'est fait remettre la traduction française de la relation de Mehmed Efendi, et qui, comme je vous l'avais dit, s'est permis de demander des coupures à l'ambassadeur pour établir une espèce de texte officiel de cette relation, eh bien, il a fait, le marquis de Bonnac, ambassadeur de France à Constantinople, a fait supprimer le passage que je viens de vous lire, et qui deviendra, dans la version officielle, qui servira de base à une publication en 1757, et le gentilhomme qui devait me conduire à Paris arriva une semaine après, sans plus de commentaires. Il se plaint d'avoir dû attendre un mois pour qu'on mette un carrosse à sa disposition pour ses promenades. Le marquis de Bonnac ne censure pas, mais il se permet un commentaire en note. Si on ne lui envoya pas de carrosse plus tôt, c'est qu'il ne sortit pas pendant tout ce temps-là. Il y aura de nouvelles récriminations au moment du départ de Mehmed Efendi, au moment où s'achève son séjour à Paris. Il constate, alors qu'il s'apprête à partir, que tous ses bagages sont encore dans la cour de son hôtel de la rue de Tournon, alors qu'on lui avait demandé une semaine auparavant de se dépêcher de faire ses bagages pour qu'on puisse les envoyer avant lui. Eh bien, le fait de les trouver dans la cour le remplit de fureur et il déclare au gentilhomme chargé de l'accompagner, « Je ne partirai pas que mes bagages ne fussent chargés et qu'ils ne marchassent devant moi. » Et pour le satisfaire, il fallut différer son départ d'un jour. Et Mehmet Efendi ajoute, après cette incidence des bagages, « Je dirais en passant que ce gentilhomme, le gentilhomme accompagnateur, était aussi grand menteur que le ministre. » Nous allons revenir dans un instant sur les mensonges attribués au ministre, mais je mentionnerai également les récriminations qu'il exprime à propos des cadeaux qu'on lui fait à son départ et que viennent lui apporter les introducteurs des ambassadeurs. Alors ce qui l'irrite particulièrement, ce n'est pas seulement la déception que lui causent ces cadeaux, c'est que les introducteurs lui donnent l'impression qu'il devrait être très très content de la magnificence des cadeaux qu'on lui fait. « Il me semblait découvrir, écrit-il, que les introducteurs disaient dans le cœur ce beau trait d'esprit, « Vous êtes présentement le plus riche homme du monde, vous ne devez plus craindre la pauvreté. » Pour moi, je m'étais flatté qu'on me donnerait quelques bourses d'argent pour les dépenses de mon voyage et pour distribuer à mes domestiques, mais il en arriva autrement. Alors Bonnac observe, à propos de ce passage, qu'on a continué à défrayer l'ambassadeur pendant tout son voyage de retour, et c'est l'occasion pour Bonnac de dénoncer l'avarice de Mehmet Efendi. J'en viens maintenant à des incidents plus graves qui tiennent au rapport très mauvais qu'il a eu avec Guillaume Dubois, le secrétaire d'État aux affaires étrangères. Guillaume Dubois était secrétaire d'État aux affaires étrangères depuis mars 1717. Il avait été créé archevêque de Cambrai en 1720, peu avant l'arrivée de Mehmet Efendi, et il recevra le chapeau de cardinal pendant l'ambassade de Mehmet Efendi. C'est dire qu'il avait d'autres préoccupations que celle de recevoir l'ambassadeur. Il deviendra principal ministre, mais, et c'est un point important à prendre en considération pour la suite, il ne deviendra principal ministre qu'après le départ de Mehmet Efendi. Par conséquent, il n'est que secrétaire d'État aux affaires étrangères. Et Mehmet Efendi écrit à ce propos, « Les Français ont plusieurs vizirs. Ils les appellent ministres. Chacun d'eux a son département particulier, dans lequel il est absolu, et il ne se mêle que des affaires qui en dépendent. L'archevêque de Cambrai était ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Régent avait surtout beaucoup d'estime et d'amitié pour lui. C'était un pauvre prêtre, devenu chef de l'église de Cambrai, écrit-il, et qu'on appelle, et là il emploie le terme grec, Archiepiscopos. Bon. Ces quelques lignes sont la seule indication que Mehmet Efendi donne dans sa relation sur le système politique français, l'organisation du gouvernement. Vous vous souvenez peut-être que Bonnac lui reprochait justement de ne pas en avoir dit assez là-dessus. Il y a cependant ce passage. Mais ce passage n'est pas destiné, comme on pourrait l'imaginer, à apporter une information sur l'organisation des pouvoirs, en somme. La manière dont la France est informée, est gouvernée, pardon, cette information vise seulement à faire ressortir que Guillaume Dubois n'est en aucun cas l'équivalent de ce que peut être le grand vizir dans le système ottoman. Et le problème protocolaire va venir du fait que Guillaume Dubois dans cette comédie qu'est la réception de l'ambassadeur, veut tenir la place du grand vizir et que l'ambassadeur ne la lui reconnaît absolument pas. À son arrivée à Paris, Mehmet Efendi avait rendu une visite de courtoisie à Dubois comme aux autres principales autorités de l'État. Mais la porte ottomane, le gouvernement turc, ne lui avait pas remis de lettre pour Dubois, parce que Dubois était secrétaire d'État aux affaires étrangères et que ce poste, l'équivalent de ce poste, n'existait pas dans l'Empire ottoman de cette époque. Donc, un premier problème protocolaire, Mehmet Efendi se rend chez Dubois, mais il n'a pas de lettre officielle à lui remettre. On règle le problème par un subterfuge qui est décrit par le marquis de Bonnac de la façon suivante. Afin qu'il ne parût point au public qu'il n'y avait pas de lettre officielle pour lui, on convint qu'on mettrait dans un sac de lettres à la Turque un papier blanc et que l'ambassadeur présenterait cette espèce de lettre à M. l'archevêque de Cambrai, qui la remettrait sur le champ au sieur Lenoir, comme pour lui en faire faire la traduction. Les apparences ont été sauves, mais Dubois n'était, semble-t-il, pas content, et de toute façon, il refuse de rendre sa visite à Mehmet Efendi, en arguant du fait que, à Istanbul, les ambassadeurs de France nouvellement arrivés font une visite au grand vizir, mais que le grand vizir ne leur rend pas cette visite. Les explications que nous a données mon collègue Itzel dans le séminaire de la semaine dernière rendent cet épisode parfaitement clair. L'interprète explique à Mehmet Efendi donc pourquoi Dubois ne lui rendra pas sa visite, mais Mehmet Efendi n'accepte absolument pas cette explication, et pour marquer sa mauvaise humeur, à la fin de son ambassade, il refuse obstinément de faire une visite d'adieu à Dubois. Il n'acceptera de faire cette visite d'adieu que si Dubois lui rend la visite qu'il ne lui avait pas faite au début de l'ambassade. Et le pauvre interprète, qui sert de tampon, n'est-ce pas, entre les deux, est obligé d'essuyer la colère de l'ambassadeur ottoman. « Quoi, lui dis-je, écrit-il dans sa relation, sous prétexte que notre grand vizir ne va pas chez les ambassadeurs, prétend-il se venger sur moi? Notre vizir occupe un rang fort élevé dans l'Empire ottoman, donc un rang sans commune mesure, avec celui d'un secrétaire d'État aux affaires étrangères. Il est vrai que notre grand vizir ne va point chez les ambassadeurs, mais à leur arrivée à la porte, il les invite et leur donne un grand festin, à la fin duquel il fait distribuer à leur suite des caftans. Il leur fait aussi présent à eux-mêmes, aux ambassadeurs français, d'une pelisse de martre zibeline et d'un beau cheval harnaché. Et les ambassadeurs, vêtus de cette pelisse et montés sur ce cheval, s'en retournent à leur palais avec une satisfaction parfaite. Si ce cardinal, écrit-il, ça c'est le traducteur qui met cardinal, puisqu'il ne l'est pas encore, comme je viens de vous le dire, si ce cardinal avait suivi cette méthode, je n'aurais rien à dire. Mais tant s'en faut, je n'ai pas mangé une bouchée de son pain, je conclus de là qu'il ne ressemble point du tout à notre grand vizir. Dubois, en désespoir de cause, se résigne à lui donner satisfaction. Il lui rend sa visite et par conséquent, Mehmet Efendi fera à Dubois sa visite d'adieu. Mais vous voyez que la tension était montée assez haut dans cette affaire. Et puis, il y a une autre affaire. Un des objectifs déclarés de l'ambassade était d'obtenir pour Mehmet Efendi la libération d'un certain nombre de captifs ottomans qui ramaient dans les chiourmes des galères de Toulon. Et à son arrivée en France, il avait remis une liste à Dubois des captifs dont il demandait la libération. Et Dubois, contrairement aux affirmations de Mehmet Efendi qui prétend que Dubois n'a rien fait, Dubois avait effectivement transmis cette liste, on en a la preuve dans les archives, au bureau du Conseil de la Marine. Et on peut constater que les captifs dont la libération avait été demandée étaient principalement des officiers de janissaires qui avaient été capturés pendant les guerres contre l'Autriche et qui, les malheureux, s'étaient retrouvés sans doute après diverses péripéties sur les galères du roi de France en Méditerranée. Le bureau du Conseil de la Marine répondit par un mémoire du 30 juillet 1721 qu'il y avait sur les registres des chiourmes de galères tant de noms conformes à ceux de la liste qu'il était impossible de reconnaître les bons, de reconnaître ceux dont Mehmet Efendi demandait la délivrance. Par exemple, disait le mémoire, le nom de Mehmet Ali, qui se trouvait en tête de la liste de l'ambassadeur, ne figurait pas moins de 17 fois sur les registres de la chiourme. Et le bureau concluait de manière très administrative, comme vous pourrez en juger, que l'ambassadeur devait également fournir les numéros de ses esclaves ou du moins des détails précis permettant de les identifier. Donc vous voyez que cette affaire était mal engagée et la tendance du côté français était de la laisser traîner. Mais à plusieurs reprises, l'ambassadeur demande des nouvelles de sa requête et on lui répond que l'intendant du roi, qui se trouve à Marseille, ne donnait pas de nouvelles, qu'on n'avait pas d'informations. Ce qui suscite des propos extrêmement véhéments de la part de Mehmet Efendi contre l'incurie de cet intendant du roi à Marseille et contre l'attitude de la France en général, qui, contrairement à d'autres pays, ne permettait même pas un rachat de ses esclaves, moyennant le paiement d'une rançon. Comment de telles pratiques se concilient-elles, écrit-il, avec la prétendue amitié? C'était évidemment une question embarrassante pour Dubois et qui essaye de s'en tirer en promettant, lors de leur dernière entrevue, en promettant à Mehmet Efendi que lorsqu'il arriverait à Sète, il y trouverait un certain nombre de captifs libérés qu'il n'aurait plus qu'à ramener avec lui à Istanbul. Mais arrivé à Sète, il ne trouve aucun captif libéré et il s'en prend de nouveau à Dubois qu'il traite de menteur, de maître menteur. Donc la relation, comme vous voyez, est loin d'être toujours idyllique dans son propos et dans son ton. Et Mehmet Efendi n'a pas hésité à juxtaposer à ses commentaires enthousiastes des récriminations extrêmement haineuses. On voit nettement à certains moments le vernis de la comédie de l'amitié, qui est le thème de l'ambassade, craqué devant ce genre d'incident. Par ailleurs, Mehmet Efendi donne dans son ambassade des renseignements assez éclairants sur le protocole qui a été suivi, sur le cérémonial dont il a bénéficier. Il nous raconte en particulier dans le détail son audience, l'audience que lui accorde le jeune Louis XV, qui, je vous le rappelle, n'a encore que 11 ans et dont l'ambassadeur loue à plusieurs reprises la beauté non pareille, beauté que met en valeur le gouverneur du jeune roi, le maréchal de Villeroy, qui va jusqu'à faire toucher la finesse des cheveux du jeune roi à l'ambassadeur en l'assurant que ses cheveux étaient de vrais cheveux, des cheveux naturels. Donc Mehmet Efendi est reçu par le roi aux Tuileries. Le roi, à son entrée, ainsi que toutes les personnes présentes, se levèrent. Et bien entendu, Mehmet Efendi le relate dans sa relation. Le roi se leva pareillement, dit-il, pareillement à l'ensemble de l'assistance, lorsque je fus près de son trône. Bonnac n'a pas pu censurer ce passage qui correspondait à ce qui s'était passé effectivement, mais il commente, en pensant assez vraisemblablement à l'obstination que Louis XIV avait montrée en 1669 à ne pas se lever lors de l'arrivée de Suleiman à Muteferika. Et Bonnac commente, on avait fait une erreur en faisant se lever le roi. C'est-à-dire qu'on avait accordé à l'ambassadeur un honneur excessif. Et de fait, on constate que la relation de l'événement qui est donnée dans le Nouveau Mercure et qui constitue une espèce de version officielle de la façon dont l'audience s'était passée, eh bien, Nouveau Mercure écrit que le roi resta assis, contrairement à ce qui s'était passé. Ensuite, Mehmet Efendi rapporte qu'il a fait son discours, puis, à propos du jeune roi, il écrit « Il n'eut point assez de fermeté, compte tenu de son jeune âge, pour me répondre. » Et cette formulation déplaît à Bonnac, qu'il a fait remplacer par un « Il ne me répondit pas ». Plus sobrement, n'est-ce pas? Et c'est le maréchal de Villeroy qui répond à la place du jeune roi. Le maréchal de Villeroy, son gouverneur, y suppléa et me dit que leur majesté, Mehmet Efendi emploie un pluriel de majesté, que leur majesté le roi était très satisfaite de la lettre de leur majesté, le très généreux et très puissant empereur ottoman. Donc, Mehmet Efendi, cette fois, enjolive un peu la réalité. Villeroy n'avait pas dit « très satisfaite ». Il avait dit simplement « satisfaite ». Et c'est ce qu'on trouve dans la relation du Mercure. Mais les rumeurs allèrent bon train et l'avis général était que Villeroy aurait dû dire « très satisfaite », qu'il était resté en deçà de ce que la courtoisie demandait. Par conséquent, même si Mehmet Efendi a enjolivé, il avait en somme quelques justifications pour le faire. Et d'ailleurs, marquis de Bonnac n'a pas repris son texte sur ce point. Cette relation de Mehmet Efendi est donc, contrairement aux commentaires de Bonnac, non seulement une évocation des grandes réalisations du règne de Louis XIV, mais elle est bel et bien une relation d'ambassade dans laquelle les questions de cérémonial et les éventuels petits incidents diplomatiques trouvent leur place. Tel qu'il est, le Sepharet Nameh de Mehmet Efendi constituera un exemple pour les ambassadeurs qui se succéderont dans les capitales européennes et en particulier pour les ambassadeurs en France. Ce texte eut un très grand retentissement dans l'Empire ottoman lui-même et on voit qu'il est reproduit par un chroniqueur de l'époque, Rachid, qui a tenu à insérer dans son histoire un texte aussi important. Et comme je le mentionnais la semaine dernière, la première imprimerie ottomane, créée par le fils de Mehmet Efendi et par Ibrahim Muteferika, publiera dès 1741, comme une de ses premières productions, le Sefaretname de Mehmet Efendi. Et quand je vous dis qu'il inspira relations ultérieures, je dois vous préciser qu'on a recensé environ 45 Sefaretname ottomans. Unat, l'historien turc qui avait consacré un ouvrage pionnier à ces textes, en recensait 42. On en a découvert quelques-uns depuis lors et il n'est pas exclu qu'on en découvre encore des manuscrits de relations d'ambassade se trouvant dans des endroits inattendus, ce qui expliquerait qu'on ne les ait pas encore identifiés. Et en effet, il s'en faut de beaucoup que toutes les ambassades ottomanes dont nous avons connaissance aient donné lieu à une relation d'ambassade qui a été retrouvée. Donc je vous dis, on en connaît environ 45 à l'heure actuelle, qui s'échelonnent entre 1665, le premier dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, celui de Kara Mehmet à Vienne, et le dernier dont nous ayons connaissance date de 1845, c'est-à-dire à une époque où, comme je vais y venir, les ambassades ottomanes dans les capitales européennes sont désormais des ambassades permanentes. Eh bien, dernier qu'on connaisse est celui d'un ambassadeur en France en 1845 s'appelait Abdurrezzak Bahir Efendi et qui a écrit un ouvrage, Risale-i Sagire, le petit traité, qui est une relation d'ambassade. Si on a la curiosité de voir comment ce corpus se répartit entre les différents pays, c'est l'Autriche qui a donné lieu au plus grand nombre de Sefaretname, de relations d'ambassade. On en connaît 7 et ce n'est pas surprenant compte tenu de tout ce que j'ai pu vous dire la fréquence et de l'importance des ambassades ottomanes en Autriche. C'est ensuite la Russie qui vient avec 7 Sefaretname, mais qui appartiennent tous à des époques relativement tardives au XVIIIe et XIXe siècle. La France a donné lieu à 6 relations d'ambassade, l'Iran à 6 également, la Pologne à 3, la Prusse, l'Angleterre et le Maroc à 2, et enfin 3 pays, la Suède, l'Inde et l'Espagne, vous voyez que c'est très hétérogène, ces 3 pays ont donné lieu chacun à un Sefaretname. Alors, je n'ai plus le temps maintenant d'entrer beaucoup dans une analyse précise de ce corpus. Les Sefaretname sont très différents les uns des autres. On en trouve qui sont encore très brefs, très secs, très réduits à l'essentiel du cérémonial, comme l'avait été le Sefaretname de 1665. Et ce sera le cas, par exemple, à une date aussi tardive que 1787, de la relation d'ambassade d'Ahmed Azmi Effendi, qui avait été envoyé par le sultan d'Istanbul auprès du sultan de Fès, donc du sultan du Maroc. Mais dans l'ensemble, le plus souvent, les séfarad-namés postérieurs à celui de Mehmet Effendi sont plus étoffés, plus vivants, et tout en laissant une place aux questions de cérémonial, se lancent dans des descriptions de la situation militaire, économique, sociale, de la vie culturelle des différents pays visités. On observe aussi une grande inégalité entre la diffusion de ces différents textes. Certains n'ont jamais été repris par des chroniqueurs, n'ont jamais été publiés, et par conséquent, après avoir été rédigés par leurs auteurs, au retour de leurs ambassades respectives, ces textes sont restés dans les archives du palais ottoman et donc dans les arcanes du sérail, en quelque sorte. Mais d'autres, au contraire, ont eu une beaucoup plus grande diffusion et ont pu toucher un public lettré assez large. Par exemple, cette première relation de Kara Mehmed à Vienne en 1665 a été reprise par deux historiens, deux chroniqueurs, dans leur chronique, Szilárdár, d'une part, et d'autre part, Rachid, que j'ai déjà cité. Une autre ambassade, celle de Zulfikar Pacha, à Vienne, en 1688, a été reprise de nouveau par le chroniqueur Szilárdár dans sa chronique. Pour vous donner encore quelques exemples, l'ambassade, le récit d'ambassade d'Ahmed Resmi Effendi à Vienne en 1757-1758 a été reprise par deux chroniqueurs. D'une part, par le chroniqueur Vassoff, important chroniqueur du XVIIIe siècle et qui lui-même avait été ambassadeur en Espagne, et d'autre part a été repris par une autre chronique bien connue des ottomanistes, le Tarih Gulshen-i Ma'arif. Un autre historien important du XIXe siècle, Jevdet, a reproduit dans son histoire de l'Empire ottoman le Sefaretname en Prusse, cette fois, du même Ahmed Resmi Effendi. Mais, quoi qu'il en soit, sans parler des Sefaretname qui n'ont pas encore été découverts et qui le seront peut-être, parmi ceux qui sont connus, qui ont été repérés, beaucoup n'ont jamais été publiés. Et donc, il y a là une masse inédite qui s'offre, en somme, aux chercheurs intéressés par ces questions de relations diplomatiques et de relations culturelles. Mais le fait que ces textes aient été si inégalement diffusés a pour conséquence que lorsqu'un ambassadeur était envoyé dans un pays étranger, il ne connaissait pas nécessairement les relations d'ambassade de ses prédécesseurs dans le même pays, ce qui était une lacune évidemment fâcheuse, n'est-ce pas ? On pourrait considérer que la première chose qu'ils avaient à découvrir avant de se rendre dans le pays était ce que leurs prédécesseurs en avaient écrit. Eh bien, ce n'est pas toujours comme cela que ça se passait. Nous savons, par exemple, qu'un ambassadeur du nom de Mouhib Effendi, qui sera envoyé en France sous le premier empire. Cet ambassadeur connaissait, donc il sera envoyé en France entre 1808 et 1811. Cet ambassadeur connaissait la relation d'ambassade de Mehmet Efendi, mais qui ne la connaissait pas? En revanche, il ne connaissait pas la relation d'ambassade de son prédécesseur immédiat, Morale Seyyid Ali Efendi, qui lui avait été envoyé en France sous le directoire et le consulat entre 1796 et 1802. Je vais vous montrer d'ailleurs un portrait de cet ambassadeur ottoman qui vient en France sous le directoire et sous le consulat, Morale Seyyid Ali Efendi, c'est-à-dire le Seyyid, le descendant du prophète Ali de Morée, n'est-ce pas, Morale? Et vous avez peut-être remarqué que la plupart des ambassadeurs dont je vous cite le nom ont le titre d'Effendi, et c'est un titre qui correspond justement à un haut fonctionnaire, et notamment à un haut fonctionnaire de l'administration militaire, ce que la plupart de ces ambassadeurs étaient. Sous le sultan Selim III, à l'extrême fin du XVIIIe siècle, s'ouvre une nouvelle phase dans l'histoire des ambassades ottomanes, phase dont nous ne pourrons que dire que quelques mots. Selim III est un sultan réformateur qui veut redresser l'empire et qui regarde pour le moderniser, pour moderniser tout particulièrement ses forces militaires et ses forces navales, qui regarde vers l'ouest en général et vers la France tout particulièrement. Et on sait que avant même de devenir sultan, alors qu'il n'est que le prince héritier, le Shehzadeh, il a correspondu de façon intermittente avec le roi Louis XVI, discutant avec lui de ces questions militaires, l'interprète Ruffin, n'est-ce pas, traduisant les lettres dans les deux sens. Et une fois sur le trône, il met en œuvre un programme de réforme militaire. Il crée un nouveau corps d'armée. Il préfère, par prudence, créer quelque chose de nouveau plutôt que d'abolir corps des janissaires qui constitue un groupe de pression d'une force irrésistible. Par conséquent, il place à côté de l'armée traditionnelle symbolisée par les janissaires un nouveau corps d'armée qu'il appelle d'ailleurs de façon significative le Nizami Jedid, c'est-à-dire l'ordre nouveau. Et il restaure de la même manière la marine, la marine qui avait été détruite, la marine ottomane avait été détruite par les Russes lors de la terrible défaite de Tchechmé. Eh bien, dans ce plan de modernisation et d'ouverture à l'Occident, dont je vous donne sur lequel je vous donne quelques indications très schématiques, et figure cette autre innovation, cette autre forme d'occidentalisation que représente la création, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, d'ambassades permanentes ottomanes dans les principales capitales européennes. L'historien Jevdet, que je citais il y a quelques instants, écrit à ce propos dans son histoire, en accord avec les progrès nouveaux de l'Europe et la conjoncture présente de l'État sublime, c'est-à-dire de l'Empire ottoman, et en se basant sur les relations nombreuses qui ont été établies avec les États voisins, on a constaté que la nécessité s'imposait d'instituer et d'instaurer l'usage d'ambassades. ces ambassadeurs résidents devaient rester en principe 3 ans. Le premier fut envoyé à Londres en 1793. Il aurait été logique, étant donné tout le passé des relations franco-ottomanes, que cette innovation porta d'abord sur la France, mais nous sommes en 1793, n'est-ce pas, et le moment n'était pas particulièrement bien choisi pour une innovation diplomatique de ce genre. C'est donc l'Angleterre qui est retenue, et on choisit pour être ce premier ambassadeur permanent, Yusuf Aga Effendi, qui avait été précédemment Kalyonlar Katibi, c'est-à-dire le secrétaire chargé des galions, n'est-ce pas, chargé de la flotte ottomane, et il est envoyé auprès du roi d'Angleterre, George III. Il quitte Istanbul avec sa suite le 14 septembre 1793, lui-même d'ailleurs partant par terre, mais un autre convoi apportant les cadeaux envoyés au roi George III par mer, la voie maritime ayant été jugée plus sûre, n'est-ce pas, pour transporter les cadeaux. En fait, ce Yusuf Aga ne fera pas lui-même de Sepharet Nameh. C'est un de ses secrétaires, c'est un cas de figure qu'on rencontre quelquefois, qui fera à sa place, en somme, le journal de l'ambassade. Ce secrétaire, qui s'appelait Mahmoud Raif, a rédigé ce journal d'ambassade en langue française, spontanément. Et c'est en langue française, n'est-ce pas, que le manuscrit en est conservé à l'heure actuelle à la bibliothèque du musée de Topkapı. Ce texte reste pour l'essentiel inédit. J'en avais personnellement publié quelques passages, justement la description du système politique anglais par Mahmoud Raif il y a une trentaine d'années. Et lorsque Yusuf Aga quitte Londres après sa mission de 3 ans en 1796, le sultan décide d'élargir l'expérience. Et c'est alors qu'il fait le choix de ce Morale Seyyid Efendi que j'ai déjà cité tout à l'heure. Il comptait l'envoyer à Berlin. Mais l'homme qui était à cette époque ambassadeur de France à Constantinople, donc en 1796, qui s'appelait le citoyen Verninac Saint-Maur, Raymond Citoyen Verninac Saint-Maur, ce personnage avait insisté auprès de la porte pour que un ambassadeur ottoman résident fut envoyé à Paris. Et c'est donc à Paris, finalement, que Morale Seyyid Ali Effendi sera envoyé. Mais on envoie quelqu'un d'autre à Berlin, Aziz Ali Effendi, qui d'ailleurs y mourra en 1798. On envoie un troisième ambassadeur, Afif Ibrahim Effendi, à Vienne. Et enfin, pour succéder à Yusuf Aga, on envoie à Londres Ismail Ferrou Effendi. Donc, vous voyez que en 1796-1797, les quatre principales capitales européennes, Berlin, Vienne, Londres et Paris, ont un ambassadeur permanent et on a choisi, dans chacun de ces cas, des hommes capables de beaucoup d'ouverture d'esprit. On a choisi des hommes qui puissent s'instruire des exemples offerts par l'Occident. Mais là-dessus intervient l'expédition d'Égypte de Bonaparte, qui est considérée par Selim III comme une déclaration de guerre de la France, et donc il rappelle son ambassadeur, et le directoire agit comme agissent les Ottomans dans de semblables cas, il ne laisse pas repartir l'ambassadeur. Et par conséquent, Morale Seyyid Ali Effendi va rester en France pendant tant que durera l'état d'hostilité entre la France et l'Empire ottoman, et finalement pour négocier avec Bonaparte le traité d'Amiens, le sultan enverra un autre ambassadeur, mais un ambassadeur extraordinaire, donc qui doit se consacrer aux négociations du traité d'Amiens, Mehmed Saïd Ghalib Effendi. Et puis, après le traité d'Amiens, Morale Seyyid Ali Effendi pourra enfin sortir de France et rentrer à Istanbul. Et il est remplacé le 29 décembre 1802 par un nouvel ambassadeur à Paris qui est cette fois Mehmed Saïd Halet Effendi. De nouveau un Effendi. Il arrive à Paris le 22 septembre 1803 et il présente quelques semaines après ses lettres de créance à Napoléon. Mais le cas de cet Halet Effendi est intéressant parce que, contrairement à tous ses collègues et contrairement à ses prédécesseurs, ce n'est pas un admirateur de l'Occident. Il trouve que l'Occident est très surfait, que ses prédécesseurs ont beaucoup exagéré, lui-même ne rédigera pas de Sefaretname, mais en revanche, il rédigera des lettres qui sont fort intéressantes, fort savoureuses, et dont certaines ont été traduites en français par mon collègue et ami très regretté, Stéphane Hierasimos. Pour vous donner un échantillon de la bouderie que Halet Effendi réserve à tout ce qu'il voit en France et combien il représente une espèce de tendance conservatrice parmi l'élite ottomane de cette époque, vous donne ce petit aperçu. Il écrit à un correspondant, d'ailleurs anonyme, « Je sollicite vos prières afin que je puisse me délivrer au plus vite de ce pays d'infidèles, puisque nous sommes venus jusqu'à Paris, mais nous n'avons pas pu voir ce pays des Francs, tant raconté et tant vanté par les gens. Dans quelle Europe se trouvent donc ces choses si curieuses, ces Francs si avisés? C'est dans quel coin du pays des Francs tout cela, mon bon Seigneur ?» À cette date, cette lettre est de 1804, Sélim III ne remplace plus les ambassadeurs permanents dans les capitales européennes autres que Paris. C'est-à-dire qu'on voit déjà se dessiner un constat d'échec de l'expérience. Quel que soit le soin qu'on a, quel qu'a été le soin qu'on a mis à bien choisir les hommes, en général, ces ambassades ne sont pas des succès. Il y aura encore donc quelques tentatives, mais à Paris seulement. Halet Effendi rentre à Istanbul à la fin de 1806, mais dès avant cela, Sélim III lui avait trouvé un successeur, et ce sera Seyyid Abdurrahim Mouhib Effendi, que je vous avais cité déjà tout à l'heure, qui est nommé sans doute au début de 1806 et qui arrive à Paris le 20 mai 1806. Mais Sélim III n'est pas content du comportement de ce Mouhib Effendi. Et on a ainsi un certain nombre de témoignages sur la manière très verte dont le sultan critiquait ses ambassadeurs et leur reprochait de ne pas être à la hauteur de leur tâche. Voilà donc ce que Sélim III écrit à son grand vizir, à propos des bévues de Mouhib Effendi à Paris. J'ai vu les papiers envoyés par Mouhib et je suis extrêmement fâché. Il n'était pas homme à être envoyé en ce moment à Paris. Est-ce qu'on a dit à ce bougre de ne pas prononcer dans son discours le titre de roi de Rome? Mon Dieu, quel drôle de personnage! Tout le monde avait bien affirmé qu'il n'était pas l'homme de cette charge. Et c'est pourtant le sultan qui avait insisté pour l'y nommer. Il y a une seule phrase de juste, dit-il, écrite par erreur, où il dit « Je ne veux pas rester à Paris, c'est préjudiciable pour l'État ». Il n'y a pas à dire, le maintien de ce bougre d'âne est en effet préjudiciable pour l'État. Selim III enverra encore un ambassadeur, mais cette fois un ambassadeur extraordinaire à Napoléon, Mehmed Emin Vahid Effendi, mais être ambassadeur auprès de Napoléon oblige à voyager beaucoup. Il le rencontrera en fait à Dantzig, puis à Varsovie, et enfin, il l'accompagnera à Paris avant de repartir pour Istanbul le 17 octobre 1807. Et puis, quant à Mouhib Effendi, n'est-ce pas, le bougre d'âne que Selim III poursuivait de ses sarcasmes, il ne quittera Paris qu'à la fin août 1811. 1811, pourquoi 1811 ? Parce que, en fait, on l'avait oublié. Des événements important s'était déroulé entre-temps. Le sultan avait été déposé, Selim III, en 1807. Il avait été sauvagement assassiné en 1808. Et à cette date, il n'y avait plus aucun ambassadeur ottoman permanent, sauf ce pauvre Mouhib Effendi, oublié à Paris. Et donc, c'était la fin de cette première expérience d'ambassadeur ottoman permanent, expérience lancée par Selim III et qui, encore une fois, n'avait pas été un succès. Et il faudra attendre le milieu des années 1830 pour que soit reprise par le sultan réformateur Mahmoud II cet établissement d'ambassade permanente ottomane en Europe et cette fois durablement. Et le premier à être nommé dans cette seconde vague des ambassades permanentes, ce sera un homme d'État appelé à jouer un rôle capital dans la période des réformes dans les Tanzimat, Rachid Pacha, qui sera nommé en 1835 à Paris, puis qui sera nommé à Londres en 1836. Et la correspondance qu'il entretient avec le sultan Mahmoud II de Paris, puis de Londres, va jouer un très grand rôle dans le déclenchement, dans les préfigurations de ce mouvement des Tanzimat. Et désormais, le personnel diplomatique, c'est-à-dire non seulement les ambassadeurs envoyés en Europe, mais les conseillers et les attachés d'ambassade, représenteront une espèce d'élite dans la fonction publique ottomane. Et ils joueront un rôle, non pas exclusif, comme on l'a dit, on a exagéré sans doute sur ce point, mais en tout état de cause, un rôle important dans le mouvement de réforme et d'occidentalisation de l'Empire ottoman dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et désormais, dans ces capitales européennes, l'ambassadeur ottoman, ou l'ambassadeur de Turquie, comme on l'appelle, devient une figure obligée des milieux diplomatiques des capitales européennes et aussi, si l'on regarde du côté de la haute société, des mondanités, une figure de ce monde chic des capitales européennes. Dévoré d'ambitions mondaines et doué d'une réelle intelligence assimilatrice, il aurait été impossible de la prendre en défaut sur les plus récents travaux allemands. C'est le portrait de l'ambassadrice de Turquie par Marcel Proust, n'est-ce pas, que je suis en train de vous lire. C'était du reste une femme dangereuse à écouter, car perpétuellement dans l'erreur, elle vous désignait comme des femmes ultra-légères d'irréprochables vertus.
Savoir aujourd'hui le Collège de France avec Gilles Weinstein. Réalisation Thomas Duterre. Présentation Christine Goémé.
Pourtant, je parle, c'est juste pour savoir en fait si je peux prendre l'antenne à 59.
Inch'Allah Freestyle, ce dimanche dans l'atelier de création radiophonique. Point de départ, 1987. Un court-métrage de fiction réalisé à Roubaix met en scène Antor, parti chercher un petit frère, qui déserte l'école et utilise les usines abandonnées comme terrain de jeu avec quelques copains. Que sont devenus en 2007 ces enfants, filmés il y a 20 ans. La réalisatrice est partie à leur rencontre. Ils ont aujourd'hui 30, 35 ans. Le redressement de Roubaix, surnommé Beyrouth dans les années 80, a-t-il eu le moindre impact sur leur destin? Inch'Allah Freestyle, un essai radiophonique de Chantal Brier, dans l'ACR, ce dimanche 2 décembre à 22h10. France Culture, partenaire du film Paysages manufacturés de Jennifer Béchoual. Génie du meilleur documentaire 2007, meilleur long métrage canadien, Festival de Toronto 2006. Lors d'un voyage en Chine, le photographe canadien Edward Bertinsky documente les effets néfastes de la pollution et de l'industrialisation sur les paysages naturels. Une œuvre d'art et une réflexion sur la mutation des paysages et la condition humaine. Paysages manufacturés de Jennifer Béchoual, au cinéma le 28 novembre avec France Culture.
Bonjour, votre matinée sur France Culture. 9h05, la fabrique de l'histoire par Emmanuel Laurentin qui clôt cette semaine sur Strasbourg en direct et en public de la ville au café Michel. 20...